La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons passer une heure ensemble et vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents français, des femmes, des hommes qui ont des idées, qui se retroussent les manches pour faire face à la crise. Ici, c'est simple, on trouve des solutions. Elles sont françaises, la France bouge, avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à toutes et tous. Alors certains diraient que ça fait partie des professions que l'on adore détester. Les assureurs, ils se sont engagés à geler cette année les tarifs, notamment pour les professions les plus en difficulté avec cette pandémie. Certains promettent également un gel pour nos primes automobiles. C'est le cas par exemple de notre invité jusqu'à 14h, Pascal Demurger, directeur général de la MAIF.
À la une en effet, les assurances, comment gérer les vieux contrats? Comment trouver celui qui correspond le mieux à notre vie? Très souvent, ça se termine en paperasse interminable. À la France bouge, on a trouvé une start-up qui nous facilite la vie en matière de démarches administratives. Cette start-up, c'est Papernest et son cofondateur est parmi nous.
Tiens justement, trouver la bonne assurance qui correspond à nos besoins, c'est ce que proposait déjà Assurland depuis environ 20 ans. C'était l'un des tout premiers comparateurs d'assurance en ligne et ce sera justement notre saga du jour vers 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge. Un projet est défendu par ou celui qui en a l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de la France bouge et notre partenaire CCI France ont retenu Sporeasy. De quoi s'agit-il? Eh bien, on écoutera le pitch à 13h45.
Et bien sûr, demain au travail, des chèques cadeaux en fin d'année. Vous en avez peut-être eu, mais vous n'aviez sûrement pas cela que l'on pouvait dépenser dans les commerces locaux. Comment les salariés tiens ont réagi? Les ont-ils utilisés? On va appeler l'un des dirigeants de Soitec, qui est l'une des sociétés à avoir utilisé ces chèques. Ce sera vers 13h50.
Allez, bienvenue dans la France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, la France bouge aussi chez les assureurs. Cette crise les oblige à se réinventer. Ils ont été très critiqués depuis le début de la pandémie. Comment traversent-ils cette période? On en parle avec notre grand témoin du jour.
Bonjour Pascal Demurger.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de la MAIF. Vous comptez plus de 3 millions de sociétaires. Vous vous présentez comme un assureur militant. Vous avez près de 8000 salariés. Alors on va commencer par la question qui ne va pas trop vous plaire, mais on y va quand même. Les assureurs ont été très critiqués pendant cette pandémie, y compris par le gouvernement qui a estimé que la plupart d'entre vous n'en faisaient pas assez pour aider les clients en difficulté. Est-ce que le secteur a raté le coche ?
Alors, je crois que c'est vraiment à chaque assuré, hein, au vu de sa propre expérience, hein, de voir bah, finalement si son assureur a été à la hauteur de ses attentes ou pas. Hein, je n'ai pas apporté de jugement global sur le secteur. En revanche, ce que je peux faire, c'est témoigner de ce que nous avons fait.
Alors, à la MAIF.
Ce que nous avons fait à la MAIF. Plusieurs choses. D'abord, premier confinement, hein, le 17 mars, on s'en souvient. Hein, c'est une date qui restera gravée dans nos mémoires. Confinement de 2 mois. Dès le tout début du mois d'avril, le 2 avril exactement, nous avons informé la totalité de nos de plus de 3 millions de sociétaires, en effet, que nous allions leur rembourser la partie de prime automobile correspondant à la période de confinement. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que qui dit confinement dit absence de circulation automobile. S'il n'y a pas de voiture sur les routes, il n'y a pas d'accident. Et il nous paraissait complètement... impossible de conserver les primes auto s'il n'y avait plus de sinistres à rembourser en face. Hein, il était évidemment hors de question pour nous de tirer un quelconque bénéfice de
la crise. Si vous l'avez
fait,
c'est bien que vous vous êtes dit, d'une certaine manière, on ne va pas profiter de cette crise.
Exactement.
Il y a eu au moins cette réflexion-là quand même,
ou
cette volonté-là. Est-ce que plus largement, cette crise ne vous oblige pas, vous assurant, mais y compris vous, la MAIF, à mieux communiquer avec vos sociétaires? Puisque très souvent, quand on a un problème, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas lu le bon astérix, c'est là où on n'a pas lu la parenthèse de contrats qui sont, disons-le, souvent incompréhensibles, longs. Est-ce que cette crise ne nous oblige pas collectivement à mieux travailler ensemble, à mieux vivre ensemble?
Alors je partage complètement ce point de vue et d'une certaine manière, là aussi, hein, vu de mon expérience MAIF, j'allais dire, ça nous conforte dans ce choix. Nous avons qu'on appelle une relation client, hein, qui fait d'ailleurs que depuis toujours, nous sommes premiers sur le podium de la relation client dans tous les
tous les domaines.
Oui, absolument.
Tous les classements.
Et le fait d'investir dans une qualité de relation, dans une qualité de conseil, y compris d'ailleurs avec, le cas échéant, un conseil désintéressé, dans l'intérêt de son assuré et pas dans l'intérêt de l'assureur. Le fait d'investir plus de temps, de prendre le temps d'écouter, y compris les émotions, hein, tout simplement, de ses assurés lorsqu'ils déclarent un sinistre.
Mais faisons simple, ça veut dire, là, par exemple, plus les appeler plutôt que d'envoyer des lettres de résiliation pour
bien
dire...
Sûr.
Et ça, c'est ce que vous mettez en place ?
Mais bien sûr.
Donc
mais
vous, par exemple, quand il y a un contrat qui va se terminer, vous avez un salarié qui prend le téléphone et qui va m'appeler pour me dire voilà...
Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques temps, un ami m'appelle et me dit « Écoute Pascal, il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé avec la Maïf ». Dans ces cas-là, on est toujours un peu... je me dis « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?»«
Qu'est-ce qu'on a raté ?»
C'est ça.
Mais si vous nous racontez et l'anecdote, c'est que là,
ça va
y avoir
terminer
un
normalement.
Bah ouais, mais là, on est dans la France qui bouge, donc
mais
on est positif.
Vous avez raison, on est là.
Et il me dit « Écoute, il m'est arrivé un truc incroyable. Il se fait que ma maman est devenue dépendante et j'ai été obligé de la placer dans un EHPAD. » Quelques jours après, un conseiller Maïf m'a appelé. Il avait été informé par l'EHPAD de l'admission de sa maman. Un conseiller Maïf a pris l'initiative de m'appeler et m'a dit « Écoutez monsieur, j'ai appris que votre maman était en EHPAD, j'ai fait le bilan de ses contrats d'assurance, tel et tel contrat ne sont plus utiles et moi je vous engage à les résilier parce que ça n'est pas la peine que vous payiez pour rien.
Ouais, » c'est
voilà le type de relation dans lequel on investit. Et qu'est-ce que ça procure in fine ? Ça procure un niveau de satisfaction qui est inégalé sur le marché et donc une fidélité de nos sociétaires, qui est également inégalé sur le marché.
Quand on est les premiers à dégainer un geste aussi fort que vous, hein, les 100 millions d'euros que vous avez rendus à vos sociétaires, vous avez annoncé par ailleurs un gel des primes automobiles sur l'intégralité de l'année 2021.
Absolument.
Vous êtes une entreprise, vous avez beau être un assureur militant, le but c'est de gagner des clients. Est-ce que ça a marché ?
Alors, ça a d'abord formidablement marché en termes de fidélité, justement. Déjà, nous avons un nombre de départs de sociétaires qui est structurellement très faible. Il est encore plus faible en 2020 qu'il ne l'était les années précédentes. Et puis, ça a marché aussi, effectivement, en termes d'image et donc d'attractivité.
Donc, plus de clients ?
Comment ?
Vous avez recruté ?
On a recruté de nouveaux clients, bien sûr.
Combien forcément. En moyenne ?
Écoutez, on va en net, hein, en nombre de sociétaires supplémentaires au 31 décembre par rapport au 1er janvier, on va être sur un résultat supérieur à 40 000 nouveaux sociétaires, c'est-à-dire une fois et demie le résultat de 2019. Hein, donc c'est quand même quelque chose d'important.
Donc très bonne année, on l'entend pour vous à la Maïf.
Très bonne année sur.
En tout cas, vous avez recruté des nouveaux
clients.
Donc déjà
revanche,
pour vous, c'est
évidemment,
une bonne nouvelle.
Il y a eu un effort financier considérable
que vous avez mis en place pendant le confinement. Pascal Demurger, personne ne pouvait prévoir la crise actuelle que nous sommes en train de vivre. Certains assureurs avaient prévu le risque pandémique dans leur contrat. C'est aujourd'hui impossible. Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas tout assurer ?
Ça signifie qu'il y a aujourd'hui des risques qu'on appelle des risques systémiques, c'est-à-dire qui touchent en même temps la totalité de la population.
Et donc ça on ne peut pas l'assurer ?
Alors, on ne peut pas l'assurer. En tout cas, il faut trouver des schémas qui existent. Hein. C'est par exemple le régime dit des catastrophes naturelles en France qui existe depuis plus de 30 ans. Des schémas dans lesquels il y a évidemment une intervention des assureurs, mais il y a aussi... au-dessus de leur capacité contributive, une intervention de l'État, parce qu'à un moment donné, les montants deviennent...
Et vous appelez à une création comme ça pour prévoir d'éventuels risques pandémiques qui pourraient ressurgir.
Complètement, c'est la proposition que nous avons faite à Bercy, tout à fait.
Pascal Demurger, vous êtes le directeur général de la Maïf et vous restez avec nous dans La France Bouge.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
On parle des assurances. Oula, attention, vous n'aurez pas de bouton, rassurez-vous, dans La France Bouge. On voit ça du côté positif et notre invité aujourd'hui, Pascal Demurger, le directeur général de la Maïf.
Et quand on change de logement ou de voiture, c'est aussi le moment de revoir un peu tous ces contrats d'assurance. Et à La France Bouge, on a trouvé une solution qui va tous nous simplifier la vie grâce à vous. Philippe de la Chevannerie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Paper Nest. Paper Nest, ça existe depuis 5 ans. Tout a démarré au moment de votre vie étudiante. Je crois qu'il y a eu une histoire où vous avez coupé l'électricité, vous ne saviez pas si vous aviez une assurance. Et là, vous vous êtes dit, il y a un truc à faire.
Exactement. Mais en fait, j'étais étudiant. Donc, comme tous les étudiants, j'ai pris mon premier logement. Et à l'époque, je ne savais pas vraiment qu'il fallait s'occuper de souscrire l'électricité, prendre son assurance. Donc, je me suis fait couper l'électricité et mon bailleur a failli me mettre dehors parce que je n'ai pas réussi à lui montrer mon attestation d'assurance. Et à ce moment-là, enfin, c'est des choses qui me... Il y a beaucoup de phobies administratives en France. J'en faisais partie,
c'est des
choses qui m'ennuyaient beaucoup. Et donc, je me suis demandé...
Enfin,
j'ai l'impression que vous aussi. Je me suis demandé, est-ce que, en fait, il n'existerait pas une solution pour faire ça? C'est un problème simple qui concerne des millions de gens chaque année. Et donc, on a regardé et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de solution. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer Papernest.
Donc là, pour ceux qui sont en train de nous écouter, de façon très concrète, ça fonctionne comment? On arrive, ouais. On vous donne tous nos contrats et vous vous dites, bah, celui-ci il est plus utile ou j'ai mieux pour vous sur tel et tel contrat?
Voilà, alors, donc Papernest, globalement, c'est la solution pour reprendre le contrat sur tous vos abonnements. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les personnes qui emménagent ou pour les personnes qui souhaitent optimiser leurs abonnements...
Vous faites le point.
Voilà, réduire la facture. Exactement. On va faire le point et on va les accompagner dans toutes les démarches. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur papernest.com, vous mettez les informations liées à votre logement futur ou actuel et quelques informations rapides. Et nous, on va vous dire à quel contrat vous êtes éligible. Et on va aussi, si vous le voulez, pouvoir aspirer tous les contrats que vous avez et vous permettre de tous les gérer.
Mais
et
si là, on a un contrat en cours, vous n'allez pas le résilier tout de suite? Comment vous allez faire?
Ça dépend. On va à la fois analyser les contrats que vous pourrez prendre pour votre nouveau logement. Et si vous ne déménagez pas, on va analyser les contrats que vous avez actuellement. Et en fonction de ça, on va proposer les contrats auxquels vous êtes éligible, les contrats qui pourraient être intéressants pour vous, soit en termes de prix, soit aussi en termes de service, que parfois, le prix n'est pas tout et il faut avoir le meilleur service, une énergie verte, une box puissante.
Voilà, parce que c'est un point très important, ça ne concerne pas que les assurances, bien loin de là. Hein, par exemple, ceux qui voudraient en ce moment regarder pour les tarifs d'électricité ou de gaz, ça marche aussi. Vous n'êtes pas sur le moins cher, vous êtes sur ce qui correspond à mes envies, par exemple des personnes qui auraient des problèmes avec des yeux, qui vous diraient j'ai besoin d'avoir une assurance qui couvre bien cela, ou pareil pour l'électricité, je veux de l'électricité verte. Vous répondez à l'envie plus qu'au prix, presque, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue sur votre site.
Le prix peut faire partie des envies, mais donc oui, on répond aux envies. C'est-à-dire que certaines personnes vont vouloir du prix absolument, mais pas toutes, loin de là. Certaines personnes vont vouloir au contraire un excellent service client. Certaines personnes vont vouloir au contraire une fibre ultra puissante, de l'énergie verte, des conditions d'assurance spécifiques. Et donc nous, on va prendre ces besoins du client et on va lui proposer des offres adaptées. Évidemment, le client est libre de choisir de souscrire à d'autres offres dans le panel qu'on lui propose, mais on va forcément lui essayer de le conseiller en fonction de ses besoins et pas uniquement en fonction du prix.
Donc vous allez le conseiller. Alors du coup, le client va sûrement écouter votre conseil puisque vous avez l'air d'être de vous y connaître. Après, comment se fait la relation avec les différents contrats? Dire, est-ce que ça va être comme à la Maïf? On va me téléphoner directement à la maison, on va me dire attention, là, je pense qu'il va falloir changer ou c'est plus utile, ou on passe par vous automatiquement par Papernest?
Alors, lors de l'emménagement notamment, nous, on va s'occuper de toutes les démarches. C'est-à-dire que le but de Papernest, c'est d'économiser au maximum du temps. En faisant les démarches avec nous, ça prend moins de 10 minutes, alors quand vous les faites tout seul, ça prend 6 heures. Donc nous, on centralise tout, au lieu d'aller sur 3 fournisseurs différents, de répéter à chaque fois les mêmes informations. On va tout centraliser et vous allez pouvoir tout gérer au même moment. Nous, on accompagne les clients jusqu'à ce qu'ils aient l'énergie, qu'ils soient assurés, qu'ils aient la box, etc. Sur la relation long terme, on ne va pas se substituer aux fournisseurs, mais en revanche, à partir du moment où on décide d'un changement, d'une résiliation, d'un transfert avec le client, on l'accompagne jusqu'à ce que ça soit terminé.
Votre concept, hein, c'était principalement au moment d'un changement, comme le disait Elisabeth, d'appartement ou de voiture. Là, pendant les confinements, on a tous eu beaucoup de temps pour regarder nos contrats d'assurance. Ça a été un moment important de consultation de tout cela. J'imagine que chez vous, vous l'avez vu, des gens se sont posé la question à ce moment-là de se dire « Est-ce que je suis tout bêtement bien assuré, ne serait-ce que par exemple pour faire du télétravail à la maison ?»
Exactement. Alors, on a vu effectivement que les thématiques d'optimisation de contrat et de changement de contrat ont beaucoup augmenté par rapport à leur base classique pendant le confinement. Elles sont redescendues par la suite. Elles sont remontées légèrement depuis le nouveau confinement, mais moins que lors du premier. Et donc, on a aussi beaucoup aidé de plus en plus de personnes là-dessus parce que nous, on aide beaucoup les gens qui déménagent et les gens qui veulent gérer leur contrat. Il y avait très peu de gens qui déménageaient pendant le confinement, ou quasiment pas. Et en revanche, le nombre de gens qui voulaient optimiser leur contrat a beaucoup augmenté. Donc, oui.
5 ans après la création de Papernest, je crois que vous avez 700 salariés.
On est un peu plus de 700, effectivement.
Quelle réussite ?
Bah écoutez, pour l'instant, on est sur un marché qui est très porteur. Et la clé de la réussite, ça a été de toujours proposer un service qui plaît beaucoup aux clients. Et je pense que là, il y a des points communs avec la Maïf. Nous, on essaie d'avoir un NPS, donc une mesure à satisfaction client qui est très forte, qui est aux alentours de 70, entre 60 et 70, par rapport aux assureurs énergéticiens ou box classiques, qui eux sont plutôt à moins 2.
Vous gagnez votre vie comment ?
Alors, on est 100% gratuit pour les utilisateurs. Mmh. La manière dont on gagne notre vie, c'est qu'en fait, on est rémunéré à chaque fois qu'on transfère, souscrit un contrat auprès d'un fournisseur.
Mais vous n'allez pas faire en sorte de souscrire.
Oui, c'est ça. C'est toujours la question que je me pose. Est-ce que vous me donnez vraiment le meilleur?
Ouais. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner. On ne va pas avoir forcément tous les fournisseurs. Par exemple, il y a 40 fournisseurs d'énergie, un nombre d'assureurs qui est extrêmement grand en France. On ne pourrait pas avoir tous les fournisseurs sur la plateforme. On va en avoir un nombre qui est sélectionné. On va sélectionner à chaque fois le meilleur de sa catégorie, le meilleur sur le service client, le meilleur sur le prix, le meilleur sur la puissance de la box, etc. Et donc, par exemple, sur la box, on a tout le monde. Sur l'énergie, on a 5 ou 6. Sur l'assurance, on a plusieurs aussi. Donc, on n'essaie pas de les avoir tous. On essaie d'avoir les meilleurs dans leur catégorie. Et à partir de là, on oriente le client. Le client est toujours libre de choisir. C'est-à-dire que s'il en veut un autre, il peut le prendre, évidemment. Et voilà. Et donc, nous, on s'engage à essayer de donner le meilleur contrat au client en fonction de ses besoins. Et évidemment, si le client décide d'en prendre un autre, à côté de celui qu'on lui a conseillé. Il n'y a aucun problème là-dessus, on le fait pour lui.
Pascal Demurger, je rappelle que vous êtes le directeur général de la MAIF. Enfin, ce genre de structure, ça vous challenge tout ce que vous en êtes assurance au quotidien, surtout que maintenant, on peut changer d'assurance très facilement. Ce qu'on appelle la loi Hamon permet à tout le monde de quitter son assurance auto-habitation sans attendre cette sempiternelle date anniversaire qu'on a tous raté 1000 fois dans notre vie. Ça change tout pour vous.
Ça change tout et en même temps, enfin, c'est ce que vous soulignez d'ailleurs, hein, on est complètement dans la même philosophie, dans la même approche, c'est-à-dire le plus grand service au client et la plus grande facilité pour le client, pour ce qui nous concerne, pour l'assuré. Hein, et d'ailleurs, lorsque un assuré, d'où qu'il vienne, souhaite venir à la MAIF, on prend évidemment en charge la totalité des démarches pour résilier ses contrats.
On a eu l'impression que cette loi Hamon a mis beaucoup de temps à véritablement entrer en vigueur. Elle a offert la possibilité. On pensait que ce serait un chambardement. Si on écoutait les assureurs, quand elle est arrivée, c'était la mort, c'était dramatique parce que ça allait changer tout le modèle. Au final, c'est lent quand même.
Oui, c'est vrai. Elle n'a pas provoqué de mouvement extrêmement fort sur le marché. Hein, les gens n'ont pas toujours le réflexe, en effet, de comparer et de changer d'assurance.
Philippe de la Chevannerie pour Pepernest, qu'est-ce qu'on vous demande le plus en termes d'assurance, en termes de besoins de services aujourd'hui, c'est quoi ?
Alors, il y a des besoins, notamment, enfin, en gros, il y a des besoins assez classiques. Nous, on travaille beaucoup avec les assurances, notamment habitation. Mm-hmm. Donc, les besoins qui sont demandés, il y a d'une part un peu de prix qui est demandé. Par ailleurs, sur les besoins qui sont hors du prix, c'est des besoins qui concernent plus des niveaux de couverture relativement forts, des assistances qui peuvent être prodiguées en cas de problème. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui sont demandées. Après, en fait, c'est assez amusant de voir que plus les marchés sont mûrs, plus effectivement les assureurs tendent à proposer des produits qui sont similaires et plus les clients aussi ont des besoins similaires. Donc il n'y a pas forcément une énorme diversité entre les besoins demandés.
Ça s'appelle Pepernest. Merci à vous Philippe de la Chevannerie. Merci de nous avoir présenté Pepernest. Merci.
Et Pascal Demurger, directeur général de la MAIF, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et comme chaque jour, on est très heureux avec Elisabeth de vous accueillir en direct sur Europe 1 de 13h à 14h dans cette France Bouge. On parle aujourd'hui de nos assurances avec notamment Pascal Demurger qui est le directeur général de la MAIF. Alors on l'a compris, pendant le confinement, vous avez fait des économies parce qu'on a moins roulé, donc on a eu moins d'accidents, ce que vous disiez. Mais si on met de côté le Covid, on a aussi été moins malade, hein, beaucoup d'opérations ont été repoussées. Et si on regarde du côté de l'habitation, bah on était chez nous, donc a priori on n'avait pas de vol. En tout cas, on avait moins de vol. De toute façon, est-ce que vous allez être honnête ? Vous avez gagné combien de millions d'euros grâce à tout ça ?
On a perdu beaucoup de millions d'euros en 2020. On a perdu beaucoup de millions d'euros en 2020 pour une raison très simple, hein, que l'on évoquait d'ailleurs tout à l'heure. D'abord, nous avons remboursé les économies que nous avons réalisées, en particulier sur l'assurance automobile.
Les 100 millions, c'est ce que vous aviez gagné, point à la ligne ?
Les 100 millions, ça correspond quasiment au résultat que l'on avait fait en 2019. Hein, donc il faut bien se représenter que c'est pour nous une somme absolument considérable. Donc il y a eu ça, on a soutenu toutes les entreprises qui travaillent pour la MAIF, en particulier tous les garagistes, tous les artisans, par différentes mesures d'augmentation des prix volontairement. On les a payés plus cher que ce que l'on aurait pu faire, hein, pour les soutenir, parce qu'ils ont énormément souffert pendant cette période. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons décidé de bloquer nos tarifs d'assurance automobile sur 2021. Tout ça, évidemment, ça a un coût très élevé. Ce qui fait qu'au final, alors les comptes ne sont pas encore complètement arrêtés, mais au final, nos résultats vont peut-être être légèrement positifs, mais en tout cas très sensiblement inférieurs, au moins trois fois inférieurs à ceux d'une année normale.
Alors ça, c'est pour vous, de votre côté à la Maïf. Du côté du client, du côté de nous, consommateurs, on le voit, les voitures sont de plus en plus technologiques, les voitures, ça évolue sans arrêt. Donc, ça veut dire que les réparations coûtent de plus en plus cher. Est-ce qu'on ne va pas, nous, consommateurs, assister à un rattrapage du côté des assureurs dans les années à venir ?
Alors, bah, c'était précisément hein, quand on a décidé, quand nous avons début avril décidé de rembourser les primes automobiles correspondant à la période du confinement, on a été assailli de cette question. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un rattrapage ?
Vous avez la réponse, alors, etc. C'était en avril, vous avez eu le temps de réfléchir.
La réponse que l'on a donnée, elle est claire. On bloque les tarifs sur 2021.
Oui, pour l'instant.
Donc non, il n'y a pas de...
Moi, je vous parle des années à venir.
Parfois, des gels, on se rappelle les tarifs autoroute. Le gel, on le paye aujourd'hui. Est-ce qu'on le paiera demain, ce gel, chez vous ?
Bah écoutez, je pense que la meilleure réponse, c'est quand même de regarder rétrospectivement ce qui s'est passé dans les années précédentes.
Oui, mais il s'est jamais passé une pandémie comme celle-ci et on n'a jamais eu... Là, on a des voitures, on a des technologies tous les jours de plus en plus qui sont en train de tout bousculer dans le milieu automobile.
Alors vous avez raison, le coût de la réparation augmente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle geler les tarifs de l'assurance auto pour 2021 est un véritable effort. Parce qu'en face, nous, nos dépenses...
Donc est-ce qu'on va le rattraper dans les années qui viennent?
Non, elle ne sera pas rattrapée. On ne rattrape pas un gel de tarifs d'une année. Ensuite, évidemment, il faut que les tarifs correspondent à la réalité des coûts. Mais non, il n'y aura pas de rattrapage, comme il n'y a pas eu de rattrapage du remboursement que l'on a fait en 2020.
Ce qui est intéressant, c'est aussi que la façon dont vous innovez, vous, par exemple, Maïf, sur ce secteur de l'assurance automobile. Si on prend cet exemple, on a deux moyens de locomotion, ce qui arrive à pas mal de Français, notamment qui vivent en région, une voiture, un scooter. On ne paye que pour celui qu'on utilise maintenant chez vous ?
Alors on peut le faire effectivement, on a mis en place un contrat qui vous permet d'un simple clic sur votre smartphone qui vous permet de basculer l'assurance tout risque de la voiture sur le scooter ou du scooter sur la voiture en fonction tout simplement du véhicule que vous utilisez. On essaye de mettre en place beaucoup d'innovations dans ce sens qui vont à la fois dans le sens d'une économie réelle pour le client, pour l'assuré. Par exemple, nous avons lancé une assurance à la minute pour ne payer que le temps où réellement on roule. On utilise son véhicule.
Vous adaptez à nos nouvelles mobilités.
Exactement, hein. On s'adapte aux nouvelles mobilités. Ou alors, au contraire, pour ceux qui souhaitent avoir une sorte de tranquillité d'esprit, on a mis en place, et c'est unique sur le marché, un contrat d'assurance qui couvre la totalité de vos biens, la voiture, le logement, la totalité des contrats d'assurance habituels dans un seul contrat pour simplifier la vie.
Par rapport à ce que disait Elisabeth Assayag, vous adaptez à notre façon de vivre. C'est très réglementé en France, mais on sait que par exemple ça existe aux États-Unis. Ceux qui font du sport paient moins d'assurance parce qu'ils ont moins de risques de tomber malade. Pour le moment, c'est interdit, hein, ce genre de choses en France. Vous pouvez faire, je crois, des bons cadeaux, mais rien de plus. Est-ce que vous aimeriez aller sur ce genre d'ultra-personnalisation de l'assurance ?
Surtout pas, c'est la mort de l'assurance. C'est la mort de l'assurance. L'assurance fonctionne sur un principe de mutualisation, hein, c'est-à-dire que chacun paye effectivement une prime et ensuite, en fonction de la survenance d'un sinistre ou pas, bénéficie d'un remboursement. Si on va très loin dans la personnalisation des primes d'assurance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mauvais risques, ceux par exemple en assurance santé, qui ont des risques de morbidité, de risques de maladie plus importants que les autres, ne trouveront jamais à s'assurer, ou alors vont payer véritablement des fortunes. Et donc on va exclure du monde de l'assurance toute une partie de la population qui est précisément souvent la partie la plus défavorisée par ailleurs. L'assurance, c'est d'abord, et c'est pour ça aussi qu'on a fait ces gestes en 2020, l'assurance est d'abord l'expression d'une solidarité l'intérieur d'une population.
Alors la solidarité, on va continuer à faire nos petits comptes, on va aller du côté de l'assurance habitation. Ouais. Là aussi, en raison des crises climatiques, on voit de plus en plus de canicules, d'inondations. Est-ce que là aussi, on doit s'attendre à des hausses ? Alors peut-être pas dans les mois qui viennent, puisque vous allez tout geler, mais dans les prochaines années ?
Alors, des hausses raisonnables, on peut évidemment jamais les exclure, hein, vous l'avez dit, les risques liés au changement climatique, en réalité, hein, il faut se dire les choses, augmentent de manière très importante, et on l'observe, hein, et le monde de l'assurance, de ce point de vue-là, est un bon endroit d'observation, hein, pour voir les conséquences réelles, pratiques, du réchauffement climatique. Par ailleurs, il appartient aux assureurs de tout mettre en place pour éviter la montée de ces risques, en termes de prévention, de conseils, en termes d'accompagnement.
Et là aussi, en termes de mutualisation, c'est-à-dire que, par exemple, dans le Sud-Est, ceux qui sont les plus touchés, a priori, ils n'ont pas de raison de payer plus que les autres. Donc certains, tous en France, on va payer collectivement un peu plus cher pour potentiellement plus aider le Sud-Est.
Absolument, absolument. Enfin, la mutualisation et la solidarité, elle est aussi géographique.
Justement, dans le côté d'aider, on a parlé des particuliers, tout à l'heure on parlait des TPE-PME que vous disiez aider aussi, je crois qu'en plus vous allez de plus en plus sur ce marché, mais je crois que vous investissez aussi beaucoup sur le marché des associations, qui ont connu bien évidemment des moments très compliqués avec les confinements à répétition. Ça veut dire quoi les aider, les associations ?
Alors les aider, ça veut dire leur accorder des délais de paiement si elles ont du mal à payer. Ça
et là,
veut
c'est
dire...
ce que vous sentez qu'elles sont pour une bonne partie dans une situation très compliquée.
Il y en a certaines qui sont dans des... c'est très variable, mais il y en a certaines qui sont dans une situation difficile, bien sûr. Ça veut dire maintenir la couverture d'assurance même s'il y a un défaut de paiement de la prime. Et puis ça veut dire être présent, ça veut dire leur parler, ça veut dire être à leur contact en permanence pour mieux comprendre leurs besoins et mieux les accompagner.
Est-ce que vous constatez que les clients comparent de plus en plus leur contrat aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'ils comparent.
Ils vous le disent, on a comparé.
Alors, ils nous le disent parfois, et puis ce sont quand même des phénomènes que l'on mesure par ailleurs. Et évidemment, Internet permet des comparaisons relativement faciles. Après, avec les limites de la comparaison, si elle ne repose que sur le prix, par exemple.
Évidemment, il ne faut pas forcément prendre ça en compte nécessairement quand on choisit une assurance.
En tout cas, il ne faut pas prendre en compte que le prix. Évidemment, le niveau de couverture, la qualité des garanties compte énormément. Et puis aussi, derrière, le comportement de l'assureur.
Et justement, comparer les différents tarifs des assurances, c'est ce que fait Assureland. Ils ont révolutionné le marché de l'assurance.
Oui, ils ont été les premiers à se lancer sur ce marché aux alentours des années 2000. Assureland, filiale du groupe Covéa, c'est notre saga du jour, racontée par Dora Nana.
Europe 1, la France bouge. La saga.
Vouloir changer d'assurance, on y a tous pensé un jour, mais on ne passe pas toujours à l'action. Et pendant longtemps, c'était même encore plus casse-tête qu'aujourd'hui, car ça voulait dire prendre son téléphone et comparer seul les offres de plusieurs sociétés d'assurance. Mais l'arrivée d'Internet fin des années 90 va changer la donne avec une nouveauté, un outil à notre disposition, les comparateurs d'assurance en ligne. On est en plein dans ce qu'on a appelé la bulle Internet, et les premiers à se lancer en France sur ce nouveau marché, c'est Assureland. Son cofondateur Stanislas Di Vittorio travaille à l'époque dans une start-up de la Silicon Valley. Il importe le concept qui existe aux États-Unis et l'adapte au marché français. Lui, il croit dur comme fer, mais à l'époque, les assureurs ne voient pas ce nouvel outil d'un très bon œil.
La quasi-totalité des assureurs ont refusé de participer. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, beaucoup d'assureurs ne veulent pas participer. Et on n'a que des assureurs assez marginaux, dont beaucoup d'ailleurs ont disparu. Mais à l'inverse, les gens que je rencontre dans les compagnies d'assurance me disent « c'est une idée formidable, bravo, c'est très très bien de faire ça ». Bon, nous, on ne viendra pas. D'ailleurs, je ne vous ai même pas parlé. Vous n'existez pas, mais bravo pour votre idée. Donc c'est un peu paradoxal, mais enfin, effectivement, les assureurs, ils n'ont pas été enthousiastes.
Sans compter qu'au début des années 2000, la DSL n'existe pas et il n'y a pas grand monde sur Internet.
Nos premiers clients pour Assureland, c'est véritablement une majorité d'informaticiens, pour la petite histoire. Et puis également, il faut avoir du courage pour quand même répondre à 45 questions d'assurance. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas la DSL, c'est ce qu'on appelle l'Internet via le téléphone. Et bon, ceux qui ont quelques années d'Internet se souviennent de la connexion qu'ils étaient. Et les pages s'affichaient quand même pas très très rapidement, donc il fallait quand même avoir beaucoup de courage pour faire une comparaison d'assurance sur Internet.
Au bout d'un an, l'entreprise est rentable, Internet se développe dans les foyers, mais après l'euphorie, la fameuse bulle éclate et il n'y a plus grand monde pour croire à l'avenir de ces entreprises créées sur Internet.
Le sentiment dominant, aussi paradoxal que ça puisse paraître quand on en parle maintenant, c'est l'Internet, en tant que business, ça marche pas, tout le monde perd de l'argent, personne gagnera jamais d'argent là-dessus, ceux qui en font Clairement, ils ne comprennent rien parce que de toute façon, ils vont faire faillite et il n'y a pas d'avenir dans le business sur Internet.
10 ans plus tard, en 2010, ce marché commence à attirer les convoitises. De nouveaux concurrents arrivent d'Angleterre. Le marché là-bas s'est développé plus tardivement, mais plus rapidement. Chez eux, un contrat sur deux passe par un comparateur d'assurance. Ils sont persuadés qu'avec beaucoup d'argent, ils vont faire la même chose en France. Mais c'était sans compter la particularité bien française. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, les Français sont environ 10% à faire appel à un comparateur avant de choisir leur assurance, contre 70% en Grande-Bretagne. Des Français qui restent donc fidèles à leur assureur, même s'ils sont 6 millions chaque année à faire une simulation sur le site d'Assureland.
On fait des simulations, mais on ne va pas jusqu'au bout. Voilà ce qu'on voit avec Dora Nana de l'équipe de La France Bouge.
Et nous sommes toujours avec vous, Pascal Demurger, directeur général de La Maïf, grand témoin du jour dans La France Bouge. Alors, La Maïf a toujours été dans une tradition d'engagement. D'ailleurs, vous vous présentez comme une entreprise à mission, c'est-à-dire une entreprise dont les objectifs sont sociaux, environnementaux. Il faut que cette entreprise soit utile pour la société dans son ensemble. Chez vous, à La Maïf, ça donne quoi concrètement? Ça se traduit comment?
Ça se traduit de plein de manières. Ça se traduit par le fait d'être attentif finalement à l'impact, aux conséquences de ce que l'on fait, de l'activité que l'on produit, et d'être attentif à cet impact, à ses conséquences pour tout le monde.
Mais c'est quoi être attentif aux impacts et aux
conséquences?
C'est
être d'abord attentif à l'impact pour les collaborateurs, être attentif aux collaborateurs eux-mêmes.
Et on a mis en place
un management, ce qu'on appelle un management par la confiance, dans lequel on fait en sorte de créer les conditions pour que nos 8000 salariés s'épanouissent le plus possible dans leur travail, et avec des résultats absolument spectaculaires.
Et par exemple, c'est quoi un salarié
ça veut dire ne plus être sur un management autoritaire où je donne des ordres, je contrôle l'exécution, mais au contraire, je fais confiance a priori. Et donc, je laisse des marges de manœuvre.
Mais on fait ça comment? On forme ces managers? On leur apprend à être sympa?
Bien sûr. Enfin, c'est pas seulement être sympa.
Non, mais je caricature.
C'est faire confiance. Mais comment? Alors, ça donne quoi sur le terrain?
Ça donne quoi sur le terrain? Prenons un exemple très concret. Chez nous, on a évidemment une population importante de ce qu'on appelle des gestionnaires de sinistres. Lorsque vous avez un accident, vous déclarez cet accident et c'est un gestionnaire qui prend en charge. Au lieu d'être dans un schéma normal où il doit appliquer de manière stricte les garanties du contrat, il est enfermé dans un cadre très précis. Là, il a des marges de manœuvre très grandes. À la fois, il peut prendre tout le temps nécessaire pour vous entendre, pour vous écouter, pour mieux comprendre la situation. Mmh. Et il a des marges de manœuvre également pour trouver des solutions qui éventuellement ne sont pas prévues dans le contrat, pour aller au-delà, pour rendre un meilleur service. Et tout
donc
le monde est gagnant.
On est quasiment sur du suivi personnalisé grâce à votre management aussi.
Exactement. Mais ce qui se passe en interne se reflète en externe en réalité. Et la manière dont on manage ses équipes rejaillit nécessairement sur la relation client. Et puis derrière, ça veut dire que l'on est attentif aussi à nos impacts environnementaux, à nos impacts sociaux. Par exemple, lorsqu'il y a un accident automobile, on va proposer, lorsque c'est possible, plutôt de réparer les pièces de carrosserie que de les changer. Et s'il faut les changer, on va proposer également, si l'assuré l'accepte, de les changer par des pièces d'occasion plutôt que par des pièces neuves. Mmh. On voit bien qu'il y a un impact environnemental qui est important. On pourrait multiplier les exemples à l'infini.
La Maïf, donc une entreprise à mission. Pascal Demurger, directeur général de La Maïf, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1. La France bouge chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Pascal Demurger, qui est le directeur général de la Maïf.
Oui, c'est le moment d'écouter un entrepreneur ou une entrepreneur qui se lance ou qui développe son projet, savoir où il en est. Comme vous, Nizar Melki, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 38 ans et vous êtes le cofondateur de SportEasy. SportEasy, c'est une application qui regroupe tout ce dont un club de sport a besoin. Votre envie, à la base, c'est de digitaliser ce monde du sport. On va écouter votre pitch. C'est parti, vous avez une minute.
Eh bien écoutez, SportEasy, l'histoire est simple. Quand j'ai rencontré mon associé, on était tous les deux responsables de clubs de foot amateurs et on partageait le même constat qui est que gérer un club de sport amateur, c'est extrêmement chronophage et ça nécessite plein d'outils différents. Donc un Excel pour suivre qui a payé ses cotisations en début d'année, des emails toutes les semaines pour savoir qui peut venir au match, un texto de dernière minute s'il est annulé, une page Facebook pour partager des photos, etc. etc. Donc évidemment, on n'est pas les seuls, hein. Il y a près de 300 000 associations sportives rien qu'en France et donc on a décidé de créer une application, SportEasy, qui regroupe tout ça dans un club a besoin des fonctionnalités de gestion administrative et d'organisation sportive pour les dirigeants, les entraîneurs, et des fonctionnalités sociales, ludiques pour les joueurs, les parents de joueurs, qui peuvent ainsi prolonger l'esprit club hors des terrains. Aujourd'hui, Sporty compte 1,5 million d'utilisateurs, dont 1 million en France. Et bon, je pense que le business model, etc., on pourra en parler lors des échanges.
Voilà, c'est déjà très réussi. Bravo à vous, en tout cas,
bravo
pour ce pitch,
pour
Nizar Melki.
Vous avez besoin de quoi, Nizar Melki, parce qu'on a l'impression que tout va bien.
J'ai besoin de quoi, vous dire, pour Sporty, pour continuer à nous développer. Écoutez, on a besoin déjà que la pandémie s'arrête, ce serait bien pour le sport, premièrement. Et deuxièmement, écoutez, nous, on est une start-up qui se développe bien, on est leader en France, on souhaite devenir le leader européen dans 3 ans, donc pour ça, on va lever des fonds pour développer plus de services.
Donc vous cherchez une levée de fonds,
donc,
en ce moment.
On a besoin de
fonds. Et pourquoi vous êtes aujourd'hui limité au sport? Puisque finalement, il y a plein d'associations qui s'occupent notamment d'enfants, qui pourraient avoir besoin de vos services, parce qu'on a besoin de gérer les cotisations, on a besoin de, je pense notamment au centre aéré,
des associations.
Oui, absolument. Alors, ça vient un peu d'une raison historique. Sporty, d'abord, c'était une appli pour une équipe. Donc, c'était vraiment l'équipe de foot.
Recevait une notification. De quelle ville, d'où?
Pardon?
De quelle équipe de foot?
Non, c'était
pour une équipe pour d'un club de sport.
Non, je voulais dire, voilà,
sport.
Exactement.
D'accord,
une équipe,
okay.
Vous, par exemple, vous jouez au Five avec vos amis, ou bien vous êtes l'équipe des moins de 12 ans du football club de Maubeuge. Vous pouviez utiliser Sporty, donc juste pour l'entraîneur et les joueurs.
Mais c'est vrai que maintenant, vous pourriez vous développer, voilà. Parce que votre technologie est super.
Absolument.
Je pense que là, tous les patrons d'associations qui viennent de vous entendre.
On peut la voir si vous nous suivez en direct sur europe1.fr.
Et effectivement, oula, c'est une ancienne vidéo, mais c'est pas grave, ça résume quand même pas mal les choses. C'est-à-dire que, effectivement, c'est avant tout une appli de communication et d'organisation, d'où l'utilité pour une équipe. Et en fait, on a déjà aujourd'hui des utilisateurs pour une équipe ou pour toute une association dans d'autres activités que le sport.
Alors Nizar, je vous présente Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Nizar, bonjour Emmanuel.
Nathalie Carré, notre experte chargée de l'entrepreneuriat à la CCI, elle a 2-3 choses à vous dire, les forces et les faiblesses de Sporty.
Oui, 3 points positifs. Alors d'abord, vous l'avez dit, le marché est super important. 300 000 associations sportives en France, 16 millions de licenciés et le tout géré par 3,5 millions de bénévoles qui y consacrent donc beaucoup de temps. Deuxièmement, la possibilité de tester pendant un mois, parce que malgré les promesses et le côté tout inclus centre de pilotage, c'est toujours difficile de changer ses habitudes. Donc c'est bien de pouvoir tester gratuitement. Et puis 3, le prix qui est très abordable pour un club. C'est 5 euros par mois pour une équipe ou 0,25 euros par membre pour un club. Moi, je mettrais 2 points améliorés ou plutôt 2 suggestions. En tant que parent avec des enfants en club, il y a 3 frustrations. Faire le chèque et s'assurer qu'il arrive à la bonne personne, avoir les bonnes dates des compétitions et gérer le covoiturage. Donc il y a WhatsApp, mais ça ne fait pas tout. Peut-être que les parents pourraient être vos meilleurs prescripteurs de l'application, il suffirait de les motiver un petit peu. Et puis, deuxième chose, vous l'avez dit, il y a la crise, le smartphone est vraiment rentré dans les usages sportifs pour mesurer sa performance, suivre un programme d'entraînement, bref. Donc en ces temps compliqués, pourquoi pas des partenariats avec des applis sportives pour que les membres des clubs puissent continuer leur sport préféré autrement.
C'est très intéressant ce que vous dit Nathalie Carré.
Absolument.
Un partenariat avec les applis sportives.
Oui, oui. Merci beaucoup pour ces remarques. Sur les parents, déjà, c'est exactement ce qui se passe. Donc, merci pour cette suggestion. En effet, les parents adorent Sporty, c'est très pratique pour eux. C'est-à-dire, je viens pas, j'ai une voiture, etc. Et ça remplace le groupe WhatsApp, parce que le groupe WhatsApp, c'est pas super pratique. C'est des messages dans tous les sens sur un même groupe. Donc, c'est pas très organisé. Donc, ça, ils sont déjà les prescripteurs. Et ensuite, pour les partenariats avec des applications sportives, en effet, là, pendant le confinement, c'était un peu plus compliqué d'aller faire son entraînement. Donc, on a proposé, nous, des programmes pour le sport à la maison. Il y a des applis qui le font mieux que nous. Donc, on a essayé d'en mettre en avant dans nos newsletters et au sein de l'application. Mais c'est une super idée. Donc, je vous remercie pour tout ça.
Pascal Demurger, directeur général de la MAIF, vous en pensez quoi avec votre casquette d'entrepreneur?
Je dirais 2 choses. Il se trouve que Sporty a été en discussion avec mes équipes. Donc j'ai interrogé mes équipes et la réponse qu'ils m'ont faite, c'est juste top. C'est performant, c'est agile. Donc vraiment.
Ils connaissaient.
C'est hyper positif. Mm-hmm. C'est hyper positif. Et si je devais, mais alors très modestement, hein, devant une telle réussite, vous donner un conseil, ce serait, au fond, vous êtes quand même sur un marché qui est hyper concurrentiel. Il y a plein d'applis qui se sont développées, y compris d'ailleurs dans votre sillage, sur ce créneau-là. Je crois qu'il faut impérativement que vous puissiez vous singulariser, vous distinguer des autres. Peut-être, pourquoi pas, en conciliant sport et engagement. En donner aidant, du par sens. Exemple, des populations qui ont un accès plus difficile au sport, des populations fragilisées, que sais-je. Mais il me semble qu'il y a place pour une forme de singularité.
Il y a peut-être une piste là-dessus. Merci à vous, en tout cas, Nizar Melki, pour Sport Easy. Et on vous souhaite bonne chance pour vos prochaines levées de fonds. Et Nathalie Carré, on vous retrouve demain dans La France Bouge.
Et si vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre témoin du jour, eh bien c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats. Ou de nos candidates en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Suite et fin de notre émission, Pascal Demurger, directeur général de la MAIF, vous restez avec nous encore quelques minutes.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, ça passe chaque jour trop vite. Dernière partie de votre émission de La France Bouge, toujours avec notre grand témoin du jour, Pascal Demurger, le directeur général de la MAIF.
Alors, pour certaines entreprises, au mois de décembre, certaines d'entre elles ont reçu les traditionnels chèques cadeaux, enfin les salariés de ces entreprises, qui permettent de s'offrir des présents, des cadeaux dans plusieurs enseignes. Alors, pourquoi demain au travail là-dessus? Parce que dans l'entreprise que nous avons trouvée, c'est un peu différent cette année. Bonjour Cyril Menon.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des opérations de Soitec, 1250 employés en France. Vous fabriquez un composant électronique que l'on retrouve dans 100% de nos téléphones. 90% de la production est réalisée en France. Et d'ailleurs, ça, c'est déjà un signe parce que vous avez décidé cette année d'offrir à vos salariés des chèques cadeaux seulement utilisables chez des commerçants locaux.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Seulement, la fin d'année à Soitec est un moment de convivialité. On essaie d'avoir un moment de convivialité entre collègues. Nos collaborateurs passent bien souvent un moment dans un restaurant de la région, dans un de des villages ou des villes qui sont à proximité de notre site. Et c'est vrai qu'avec cette année, les mesures sanitaires, ce n'était pas possible. Ce sont les mêmes mesures sanitaires qui font que certains de nos commerces de proximité sont encore
très touchés par la crise, bien sûr.
Exactement.
Alors, il y avait combien de commerçants qui étaient concernés? Parce que je crois que la somme, et moi, elle m'a impressionné. Hein. Vous donnez, je crois, en moyenne, si je ne dis pas de bêtises, 80 euros par salarié. Elisabeth le disait, vous en avez 1250. Donc, au final, ça fait 100 000 euros. C'est ça, le chèque cadeau qui était à dépenser chez les commerçants locaux.
100 000 euros qui ont été distribués.
À Bernin. Seulement à Bernin ou dans toute la région de Grenoble et Chambéry?
Alors l'initiative, c'est l'initiative Grésy-Cadeau,
dans la vallée du Grésy-Vaudan, d'accord.
Exactement, la vallée du Grésy-Vaudan qui est entre Grenoble et Chambéry. Et ce sont des chèques cadeaux qui sont à faire valoir chez le boucher, le fleuriste ou le coiffeur d'un de nos villages d'une de nos villes qui sont dans cette vallée.
Ça a été bien perçu par vos salariés. Je crois qu'on est en cours même de phase de distribution encore. Ça a commencé il y a deux semaines, je crois.
Exactement. La distribution a commencé dans la période entre Noël et le premier de l'an et termine de se réaliser là dans cette semaine. Et déjà en cours d'utilisation. Et au-delà, bien sûr, du fait d'avoir un cadeau, c'est aussi l'acte de solidarité. Envers le commerce de proximité qui apprécie nos collaborateurs,
ça.
Puisque cette économie, elle est importante pour nous.
Ils ont su, les commerçants locaux, que vous étiez en train de mener une telle opération? Parce que là, c'est une manne qui leur tombe du ciel.
Oui, c'est aussi un clin d'œil, un geste. Hein, on est une entreprise industrielle qui est plutôt, comme vous le disiez, qui a une empreinte globale puisqu'on est dans 100% des smartphones, donc on exporte beaucoup. Mais en même temps, cette initiative, c'était l'idée aussi de se rapprocher du commerce de proximité. Hein, cette économie de proximité, elle est importante pour nous, elle est importante pour nos collaborateurs et c'est important qu'elle soit résiliente dans la situation qu'on connaît et qu'on a connue.
Pascal Demurger, je rappelle que vous êtes le directeur général de la MAIF. Alors vous êtes bien loin de ces belles montagnes, mais vous avez aussi un siège historique, hein, je crois plutôt du côté de Niort. Quand on
Absolument.
Est assureur, de toute façon, on n'est pas trop loin du Mans ou de Niort. Vous pourriez faire quelque chose comme ça aussi pour les commerçants locaux?
On fait plein de choses pour les commerçants locaux.
Alors quoi,
aussi
par
bien
exemple
à Niort d'ailleurs, au siège, que dans toutes les régions dans lesquelles on est implanté. Quelques exemples. Par exemple, il y a un restaurant administratif qui sert quand même 1200 repas par jour. Hein, donc, c'est pas tout à fait rien. Avec un approvisionnement exclusivement auprès de commerçants, d'artisans locaux ou de maraîchers locaux. On a des services, vous savez, de conciergerie. où les gens peuvent acheter des biens ou des services, les salariés peuvent acheter des biens ou des services exclusivement fournis par des prestataires locaux. Notre mobilier, évidemment, au siège, hein, on a 2500 personnes qui y travaillent. Tout le mobilier est réparé pour être réutilisé par des artisans locaux. Voilà. Donc systématiquement, nous essayons de faire travailler des artisans locaux.
Faire vivre les commerçants locaux. Merci à vous Cyril Menon, directeur des opérations de Soitec. Merci à vous Pascal Demurger.
Merci également.
Le directeur général de la Maïf.
Merci à vous.
Et demain, on parle de quoi Elisabeth ?
Et on se retrouve demain Emmanuel. Nous allons recevoir le patron du Bon Coin parce que là aussi, l'entraide, la débrouillardise, les achats de seconde main.
Mais c'est assurément le plus grand placard de France. En ce moment, dans un instant, le flash suivi de Christophe Andelatte.